On a trop parlé de The Vidéo, donc prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Ensemble, prenons soin des seins de Lara Croft. Marceau s'en vient avec Charles Milliard. On se reparle demain, 14h, la dernière de la semaine.
Salut, là!
Bye!
Boulevard te tient informé toute la semaine. Marceau le matin, 6h. Le Pit Stop avec Gravel, 7h45. Oh. Le Point de Max, 10h. On en jase le midi. Gravel dans le retour, 14h.
Juste Gravel dans le retour qui peut faire ça.
Marceau le soir, 8h. Boulevard 102.1. Maintenant 100% parlé en semaine. 100% talk.
Boulevard 102.1.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
C'est un plaisir de lui parler ce soir, Charles Milliard, qui est le candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec. J'aurais pas aimé en voir ces dernières semaines parce que j'imagine qu'il y avait des émotions quand même assez incroyables et on a le plaisir de lui jaser ce soir. Monsieur Milliard, comment allez-vous?
Ça va très bien, M. Marceau. Merci de me recevoir pour une deuxième fois, si je me rappelle bien.
Oui, c'est une deuxième fois. Je vous souhaite une belle année 2026 en santé. Puis j'imagine que vous allez être prêt parce que on a besoin de vous, vraisemblablement au Parti libéral du Québec. Quel genre de comment vous l'avez vécu cette campagne-là lorsque Pablo Rodriguez a remporté finalement cette campagne-là versus bon le moment où vous êtes dit OK, ben c'est pas moi qui ai été choisi, je vais devoir refaire un peu ma vie pour la suite être rappelé. Comment vous l'avez vécu ce moment-là?
Bien, pour refaire l'histoire, pour celles et ceux qui peut-être ne la connaissent pas, dans le fond, moi, j'ai démissionné de mon poste de président de la Fédération des chambres de commerce en juillet 2024 pour me lancer dans la course en août 2024. Alors, ça fait un an et demi de ça. Donc, ça fait plus d'un an que je suis en fait en campagne puis à la rencontre des militants libéraux. C'est une campagne où j'ai terminé, comme vous le savez, à 48%, mais ouais. Je vous rappelle que j'ai débuté à 0%. Alors, on est extrêmement fiers du travail qu'on a fait. On sait que la politique, c'est des idées, mais c'est aussi de la notoriété. Donc, on a travaillé très, très fort. Puis, quand M. Rodriguez a gagné, les militants l'ont noté, là, je me suis pointé dans des événements du parti quand même. Alors, je voulais être solidaire au chef. Évidemment, j'aurais pas pu prévoir là, la suite des événements. En politique, on essaie de tout prévoir, mais il y a des choses qui se prévoient pas nécessairement.
Est-ce que, parce que là, vous avez été quand même plusieurs mois sans salaire, là, vous viviez avec vos épargnes, ça a dû être quand même une grosse déception là, de ne pas remporter cette chefferie-là, parce que vous êtes allé là-dedans le tout pour le tout, là.
Oui, puis en fait, merci de poser la question parce qu'effectivement, je fais partie des privilégiés de la vie, là, on s'entend, mais j'ai quand même dû abandonner mon travail pendant un an pour me consacrer à ça. Et là, je viens de le faire encore une fois parce que j'enseignais à l'Université Bishop jusqu'à tout récemment. Donc, c'est quand même la deuxième fois que je lâche mon travail pour devenir chef d'un parti politique. Alors, c'est pas une solution que beaucoup de gens choisiront, mais j'espère que les gens verront la conviction qui est derrière ces décisions-là.
Parce qu'il y a Charles Milliard, le politicien, mais vous avez des gens autour de vous avec qui vous partagez votre vie, vous avez une famille et tout ça. Bon, d'annoncer qu'on se lance en politique, annoncer à ses proches qu'on se lance en politique, bon, il y en a qui sont super contents, il y en a d'autres qui vont dire hey, « Tabarouette, Vincent, t'étais bien, Charles, avec la job que t'avais. » ça devait être assez particulier. Là, vous n'avez pas travaillé pendant des mois et des mois parce que vous faisiez campagne à la chefferie du Parti libéral. Là, finalement, il y a un chef qui est élu, ce n'est pas vous. Vous devez refaire votre vie. Est-ce que ça a été complexe par la suite, ce moment-là, où vous deviez vous retrouver un emploi?
C'est une bonne question. On ne m'a jamais posé cette question-là. J'ai pris quand même l'été pour décanter tout ça, là, ouais. L'été passé, mais en même temps, bien honnêtement, après la défaite, c'est davantage moi qui réconfortais mon équipe que l'inverse. J'étais vraiment très, très fier du succès de notre campagne. Évidemment, j'aurais préféré gagner en juin passé, mais il y a eu quelques opportunités qui se sont présentées. Puis la plus belle, ça a été d'enseigner. Fait que ma mère était prof de français toute sa vie. Donc, l'idée d'enseigner pour moi, puis dans ma deuxième langue, parce que j'enseignais en anglais, même si la majorité de mes étudiants étaient francophones, j'enseignais en anglais. Alors, ça m'a... Honnêtement, j'ai fait bien des choses dans ma vie. C'est une des choses dont je suis le plus fier, d'avoir réussi à faire ça. Tout près de chez nous, évidemment, l'Université Bishop, qui est à Lennoxville, en Estrie. Alors, j'ai adoré ça. Puis, j'avais déjà un contrat confirmé pour trois cours cet hiver. Mais là, à très brève échéance, j'ai dû décliner et je pense qu'ils ont bien compris l'importance de ma décision, puis ont été très, très gentils avec moi. Là, je les remercie d'ailleurs.
Et vous enseignez quoi?
En fait, j'enseignais à l'école de business, donc l'école de gestion. Donc,
Ouais.
j'enseignais des cours d'entrepreneuriat, d'introduction à l'entrepreneuriat, des cours de laboratoire d'entrepreneuriat. Donc, comment permettre aux jeunes de faire des pitches d'affaires. Donc, un peu comme dans l'œil du dragon et tout ça. Donc, comment monter un plan d'affaires et le présenter. Puis, un cours de développement de produits et d'innovation. Alors, toutes les choses que j'ai faites dans ma vie, que ce soit dans la gestion, dans le milieu de la pharmacie ou dans les chambres de commerce, dans le fond, j'ai passé pas mal de ma vie avec des entrepreneurs, hein, parce que les pharmaciens, c'est aussi des entrepreneurs. Ils ont leur propre business, leur propre pharmacie. Donc, pour moi, c'est comme ça culmine vers ce poste-là. Alors, ça n'a pas été un divertissement, ça a été vraiment un enrichissement pour moi, là, les derniers
Ouais.
mois.
Moi, quand l'histoire avec Pablo Rodriguez a commencé, bon, vous savez que j'ai pensé à vous parce que je vous ai achalé par messagerie pour vous jaser, mais il y a Charles Milliard qui était devenu le professeur, qui était à l'école. Vous deviez suivre l'actualité, les enseignants qui étaient autour de vous, vos collègues suivaient l'actualité, vos élèves suivaient l'actualité aussi. Avoir le double rôle là, du gars qui est nommé dans les médias mais qui est enseignant aussi, ça devait être une situation particulière. Comment vous avez fait pour rester en dehors de tout ça en disant, là, je vais attendre de voir ce qui se passe, tout en gardant la tête froide. Parce que vous auriez pu sortir très rapidement dans les médias en disant, je le savais que c'était passé de quoi, ou je demande une enquête. Vous n'avez rien fait de ça. Vous avez été un gars qui était là pour son parti d'abord et avant tout.
Exact, j'ai essayé d'être le plus, d'aider à ma façon, puis je pense que de voir comment les événements se déroulaient sans rajouter de l'huile sur le feu, moi, ça a été on pourrait dire stratégie, mais plus mon attitude. Parce que, bien honnêtement, là, moi, j'enseignais durant l'automne, alors j'ai suivi les déroulements comme n'importe quel Québécois dans le journal, à la télé. Les gens peuvent peut-être penser que j'étais dans les cercles intimes, mais non. En fait, j'ai suivi ça de loin. Et effectivement, j'ai vécu un peu ce que les politiciens qui quittent la politique, hein, parce qu'on a sûrement parlé de M. Legault, mais
Ouais.
vivre quand ils quittent la politique, c'est-à-dire que les gens t'associent à ça, mais tu dois travailler, faire ta vie et gagner ton pain. Donc, c'est un peu ce que
Exact.
j'ai fait. Mais j'ai été quand même porté par beaucoup de soutien, là, que ce soit l'université, les étudiants étaient fiers aussi, quand même, je pense, d'avoir quelqu'un qui était dans le milieu politique, qu'importe le parti, tu sais, pour des étudiants qui aiment la politique puis les affaires, ben, je pense que ça a été une forme d'inspiration. Alors, tant mieux.
Ouais. Mais ça devait être une situation particulière parce que là, vous vous dites, moi, j'étais à l'extérieur de ça, j'étais pas dans les cercles intimes du Parti libéral. On vous nommait régulièrement à TVA, LCN, RDI. Puis au travers de ça, ben, il y a des gens qui devaient nécessairement vous en parler. Ça devait être un moment assez particulier. Quand est-ce que vous avez pris la décision que, bon, ben, on reprendra pas le prochain contrat d'enseignement, puis on va retourner au Parti libéral du Québec pour briguer la chefferie?
Justement, j'écoutais des analystes parce que je suis abonné au CAB moi aussi. Et puis les gens disaient, ben, c'est sûr qu'il a pris sa décision avant Noël. Ben, la réponse, c'est non, en fait.
Ah non.
C'est-à-dire que moi, comme je vous disais, je suis pharmacien. Tu sais, je suis quand même quelqu'un de méthodique puis qui réfléchit aux conséquences des choses. Donc, j'ai vraiment pensé, je vous dirais que quelque part entre Noël et le jour de l'an, je me suis dit, j'ai le goût de me battre. Je suis très déçu de l'offre politique au Québec en ce moment. Mon équipe était tellement motivée, puis j'ai tellement reçu, puis là, les politiciens aiment ça se vanter, mais j'ai tellement reçu d'appui, puis d'enthousiasme de gens que je ne connaissais pas. Ça, c'est toujours un signe, hein, important. Quand c'est tes tantes puis tes cousines qui t'appellent, c'est quelque chose, mais quand
Ouais.
c'est des gens qui disent, écoutez, je vous ai entendu, puis vous m'inspirez quelque chose de positif pour l'avenir, ben tu dis, ben si on est porté par des gens, ben c'est ça le mouvement politique. Alors, j'ai pris cette décision-là juste avant le jour de l'an, puis on a décidé de sortir rapidement parce que je voulais dissiper les doutes, je voulais que les gens sachent que ça me tentait et voir qui allait embarquer. Et puis depuis l'annonce, je vais vous dire que c'est quand même assez incroyable.
Puis l'ampleur de la tâche, c'est pas quelque chose qui vous fait peur avec toutes les enquêtes qui sont en cours. Bon, le Parti libéral qui a même demandé des enquêtes de son côté aussi. C'est pas quelque chose qui vous faisait peur?
Bien, écoutez, je suis très lucide là, par rapport au travail à faire. Je ne m'en vais pas dans un champ de roses et d'arc-en-ciel. Donc, je suis très, très conscient de ça. Mais je connais tellement bien les militants, puis je connais mes convictions, mes valeurs. Quand on arrive dans un poste comme leader, que ce soit dans une compagnie ou dans un parti politique, faut qu'on impose son style, faut qu'on donne des directives claires. Alors moi, ce que je me suis dit, c'est que je vais collaborer avec les enquêtes, procédures en cours, bien sûr, puis je vais être imputable de ça si c'est moi qui est chef et que c'est mon nom qui est en bas des documents. Mais là, je ne peux pas expliquer des choses alors que je n'étais pas partie prenante. Mais je ne me défilerai pas de ces questions-là. Mais à partir du moment où c'est moi qui ai les clés, là, c'est sûr, ça va fonctionner à ma façon.
C'est un atout de venir de l'extérieur. T'sais. Vous n'avez pas été pour le Parti libéral du Québec comme ministre ou encore comme député pendant des années et des années. Vous venez de l'extérieur, venez du milieu des affaires. Moi, j'avais entendu parler de vous dans les premiers jours de la campagne, de votre première campagne à la chefferie. On m'avait dit, watch le ben aller, lui, ça devrait ben aller. Puis là, je me suis dit, bon, OK, on va aller voir ce que les gens de l'extérieur pensent. Puis c'était la même affaire. Puis j'avais dit sur les ondes de radio à Québec, alors que personne connaissait Charles Milliard, d'après moi, lui devrait faire bonne figure. Puis finalement, ben, vous avez fait extrêmement bien à la course à la chefferie. Vous avez remporté presque 50% des votes. Puis là, ben, vous êtes premier pour la course à cette deuxième campagne à la chefferie. Est-ce que vous voulez de l'opposition à cette course à la chefferie-là? Est-ce que vous aimeriez avoir une opposition peut-être un peu plus grande que celle qu'on a actuellement avec Mario Roy, qui est à peu près 1% des votes, là?
Ça, c'est une question embêtante parce que dans le fond, moi, qui je suis pour dire aux gens, présentez-vous, présentez-vous pas. Tu sais, M. Marceau, vous pourriez vous présenter, puis vous auriez le droit de le faire. Donc, n'importe qui peut se présenter. Moi, je respecte ça. Évidemment, je suis pas idiot non plus. Il reste très peu de temps avant la prochaine campagne électorale. Alors, tout le temps que le prochain chef va avoir pour recruter des candidats, faire un certain nombre de changements à l'interne, faire le tour du Québec, monter la plateforme électorale. Si vous me dites, Charles, tu as un mois de plus pour faire ça ou un mois de moins, c'est sûr que je vais dire un mois de plus. Mais on va voir ce qui va se passer d'ici le 13 février. Puis là, en plus, bien, depuis hier, on se rend compte qu'il va y avoir une congestion de course là, en politique québécoise. Alors, voilà.
Ouais, il y a quelque chose que je trouve franchement intéressant avec le topo qui se dessine devant nous, là. On va avoir des gens beaucoup plus jeunes. Je ne veux pas faire d'âgisme, je pense que les gens de 60, 70, 80 ans sont capables de faire leur job en politique. Mais je regarde une Ruba Gazal qui est très jeune. Je regarde un Paul Saint-Pierre Plamondon qui est très jeune. Vous qui arrivez pour le Parti libéral, probablement. Une nouvelle campagne à la chefferie où les gens qui sont considérés sont très jeunes aussi, dans la trentaine, dans la quarantaine, dans la cinquantaine. Je pense que c'est un vent nouveau pour la politique au Québec et je pense que ça va faire un très grand bien parce qu'on se rapproche un peu de ce que les gens ordinaires peuvent vivre avec la jeunesse, là.
Dans la dernière campagne à la chefferie, j'arrêtais pas de dire que c'était on approchait de la fin d'un cycle politique. Alors, finalement, la fin est arrivée hier, tant qu'à moi. Donc, moi, je pense que c'est bien pour les Québécois. Moi, une des obsessions que j'ai, bien sûr, je veux gagner, mais c'est aussi que les Québécois aient du choix. Et que ce soit, que les partis soient bien campés, que les Québécois peuvent décider qu'est-ce qu'ils veulent faire avec le Québec dans les 4 prochaines années. Après ça, les Québécois décideront. Mais là, ça fait des mois, sondage après sondage, n'importe quelle firme de sondage, les gens nous disent on veut du changement, on veut du renouveau. Alors là, la question, c'est qui va l'incarner, ce renouveau-là? Alors, puis on pourra sûrement parler des adversaires dans cette conversation-là, mais moi, je me réjouis de ça comme voteur, comme citoyen.
Charles Milliard, à qui je parle ce soir, qui est candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, m'a dit en début d'émission qu'il était déçu de l'offre politique qu'on a présentement en tant qu'électeur. Qu'est-ce qui vous déçoit actuellement?
C'est que on dirait qu'on n'a plus de rêve collectif. Moi, je trouve qu'on n'a pas hâte à rien comme Québécois. À part, bien sûr, les péquistes qui rêvent d'un pays. Puis je l'ai dit à plusieurs reprises. Des fois, ça fait pas plaisir même à du monde dans mon camp. Mais moi, j'ai du respect pour ça. Je trouve que le projet du Parti québécois, il est clair. Moi, ça ne m'intéresse pas, mais il est clair. Le projet de la CAQ, il est pas clair depuis 8 ans. Puis je ne vois pas comment ça va se clarifier dans les 6 prochains mois. Puis le projet du Parti libéral, bien, il est à clarifier. Puis c'est pour ça que je m'en vais là, parce que je veux que ce soit encore plus clair comment le Parti libéral peut contribuer à l'avenir du Québec. Alors, quand je dis que l'offre politique est décevante, c'est que c'est pas vrai qu'au Québec, on va juste avoir le choix entre l'espèce de valse hésitation de la CAQ puis le projet de souveraineté du Parti québécois. Alors, à ces gens-là qui pensaient pouvoir gérer le spectacle dans les prochains mois, bien, nous, on arrive, puis on va avoir une autre proposition.
Est-ce que vous allez être capitaine Canada, capitaine Québec? Parce que de ce qu'on comprend, Paul Saint-Pierre Plamondon se positionne comme capitaine Québec. Il veut faire la souveraineté du Québec dans un premier mandat avec une question qui sera claire. Bien entendu que de votre côté, bon, j'ai entendu dans les dernières semaines que vous étiez nationaliste. Mario Roy a mentionné que selon lui, vous étiez un souverainiste. Qui est Charles Milliard? Qu'est-ce que Charles Milliard peut faire du Québec dans un Canada uni?
C'est une excellente question. Bon, je commencerai peut-être par dire que en politique, il faut s'attendre à tout, mais l'accusation de Mario Roy, je vous avoue que là, ça m'a pris complètement par surprise. Je pense pas qu'il y a une personne qui me connaisse, ne serait-ce que 2 minutes, qui pense que je suis souverainiste. Ceci étant dit, moi, je vais être capitaine Québec. J'aime beaucoup votre question. Alors, malheureusement pour M. Plamondon, il sera pas tout seul sur ce terrain-là. Si j'avais voulu faire de la politique fédérale, M. Marceau, je serais allé à Ottawa. Okay? Puis je me suis souvent fait offrir des comtés. Et j'ai toujours refusé parce que moi, je veux faire de la politique au Québec. Moi, je veux faire grandir le Québec. La différence, c'est que nous, on pense que le Canada, c'est un bon ensemble politique, financier, économique pour le Québec. Alors, c'est ça la principale différence. Puis à tous ceux qui n'aiment pas le Canada, il y a différents niveaux d'amour, là. Moi, je pense que le Canada est perfectible. Il est loin d'être parfait. Mais je pense que si on a des politiciens qui veulent contribuer à son développement puis à son amélioration, ben c'est ça qu'on devrait choisir au Québec. C'est pas parce que quelque chose n'est pas parfait qu'on le quitte, encore plus dans le contexte géopolitique actuel. Pour moi, c'est complètement illusoire de penser que la souveraineté en ce moment est la solution au contexte géopolitique actuel. Mais ce n'est pas ça la base de mon argumentaire. Ce n'est pas juste de dire que ça n'a pas de bon sens. C'est de dire, moi, qu'est-ce que je veux faire comme chef politique pour améliorer la place du Québec dans le monde, mais aussi dans la Fédération canadienne. Fait qu'il y a une grosse différence entre, comme je disais, souvent ressortir des cassettes VHS là, sur ce qu'on entendait en 1995. C'est un discours qui était de son époque. Moi, je veux jouer dans un autre film que celui-là.
Il y a des champs de compétences qui sont partagés entre le Québec et le Canada. Il y a des choses que le Canada décide pour nous où on n'a pas notre mot à dire. C'est quoi les champs de compétences que vous aimeriez à rapatrier au Québec ou que vous aimeriez que ce soit peut-être un peu plus précisé? Je pense à l'immigration, entre autres. François Legault a eu de la misère à gérer l'immigration. Au niveau de l'habitation, il n'y a pas assez de logements pour le monde qu'on a fait rentrer, ainsi que les Québécois qui étaient déjà là, ce qui fait en sorte que le prix des logements, que ce soit à Montréal ou à Québec, est exorbitant. Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi, ça a commencé. Drummondville, Trois-Rivières, secteur de Gatineau aussi, on me parle de loyers qui sont très exorbitants, puis des gens de plus en plus qui se ramassent à la rue. L'immigration, va falloir un moment donné penser à ça, là.
Bien, il y a plusieurs choses dans votre question. Premièrement, avant de demander des nouveaux pouvoirs, ça serait le fun que les pouvoirs actuels soient respectés. Alors, pour moi, c'est clair qu'en santé, en éducation, ce sont des juridictions provinciales. Alors, ça, c'est géré par Québec, par l'Ontario, par l'Alberta. Alors, moi, ça, je veux être un chien de garde à ce niveau-là. Il y a des dossiers qui sont partagés. L'immigration en est un. C'est sûr qu'on fait partie d'un pays. Alors, on peut pas, c'est difficile de demander au gouvernement fédéral d'avoir absolument rien à dire. Par contre, si on voit qu'il y a des dérives qui mettent à mal le modèle québécois, bien, il faut agir. Ça nous prend un nouveau rapport de force, je pense, en immigration. L'enjeu qu'on a en immigration en ce moment, c'est que c'est devenu un dossier qui est beaucoup trop populiste. Il faut qu'on puisse parler davantage de chiffres. Moi, je pense qu'il faut mieux mesurer c'est quoi la capacité d'accueil de chacune de nos régions. Ou le potentiel, en fait. Parce que capacité, c'est un peu négatif. C'est quoi le potentiel d'accueil? Exemple au Bas-Saint-Laurent, exemple en Abitibi, exemple à Montréal. Et ça, on a des chiffres. Je ne veux pas entrer dans tous les détails techniques, mais le ministère de l'Immigration, là, ils ont des chiffres pour permettre de mieux clarifier c'est quoi le potentiel, mais on ne les utilise pas parce qu'on en fait un discours politique à qui va dire le chiffre le plus bas pour gagner la faveur des Québécois ou à qui va dire le plus haut pour gagner la faveur des gens d'affaires. Alors, tu sais, ça, faut sortir de ça, il faut changer de ton là-dessus.
Parce que Charles Millard, on a besoin de l'immigration. Je pense que tout le monde est d'accord avec le fait qu'on a besoin de l'immigration pour faire croître notre nation puis notre pays. Le problème étant que ça crée certaines frustrations quand les gens sont pas capables de trouver des emplois, par exemple. Ça crée des frustrations quand les gens sont pas capables de se trouver un loyer à bon prix. Et là, ben, t'as quelqu'un qui parle d'immigration. Tout dépendant s'il en veut plus ou s'il en veut moins, il va se faire qualifier par des mots qui sont épouvantables. T'sais, j'ai entendu quelqu'un dire que François Legault est un raciste. Je pense pas que François Legault était un raciste parce qu'il parle de chiffres, puis d'accueil des immigrants, puis de francisation. Mais c'est des sujets qui sont tellement sensibles qu'à chaque fois qu'on parle de ces sujets-là, il y a tout le temps des opposants qui sont là pour frapper, en bon français, d'un jarnac.
Ouais. Mais soyons honnêtes, c'est le cas dans tous les pays occidentaux en ce moment.
Ah
Là,
oui.
pas de solution miracle. En France, le débat est comme ça. Aux États-Unis, jusqu'à un certain point aussi. Mais je pense quand même, moi, qu'en politique, ou en tout cas dans les affaires publiques, le ton qu'utilisent les politiciens et les médias, ça dicte un peu ce qui se passe. Alors, si on a des politiciens qui sont beaucoup plus posés et respectueux sur ce dossier-là, ça va envoyer un signal beaucoup plus positif dans la discussion publique. Puis, tu sais, je comprends qu'on souligne le départ de M. Legault, mais dans les dernières années, c'est pas son meilleur coup, là, la façon de parler de l'immigration et de la division que ça crée. Quand on accueille des immigrants ici, si on décide de les accueillir, mais là, il faut respecter notre part du contrat. Il faut les accueillir, il faut s'assurer qu'on puisse leur fournir les services dont ils ont besoin, mais il faut surtout aussi leur donner accès aux fameux cours de français. Alors, on veut que les immigrants parlent français et dans certaines régions, il y a des coupures dans les cours de français qui sont à faire. Alors, comment voulez-vous que les gens se sentent? Et en plus, là, M. Legault laissait entendre que les gens qui sont déjà ici, bien, ça se pourrait qu'on les retourne. Donc, on brise notre promesse avec le programme d'expérience québécoise.
Ouais.
Je l'entendais à Infoman dans le temps des fêtes parler de ça presque à la blague. Honnêtement, j'étais gêné.
Oui,
J'étais
effectivement.
gêné. Est-ce qu'on se rappelle que c'est des humains, pas des chiffres, là, dont on parle? Donc, alors, avec. Puis bon, la CAQ demeure au pouvoir, même si M. Legault n'est pas là, mais ça prend un gros changement de discours là-dessus.
Est-ce que, là, c'est peut-être un endroit où on ne sera pas d'accord, vous et moi, là, vous saurez me le dire, mais c'est pas grave, c'est le fun, on peut jaser ensemble, vous et moi. Le Parti libéral est un parti qui est très montréalais. La coalition Avenir Québec, bien que bien des gens nous disent « Non, 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 c'est une coalition, puis il y en a à travers tout le Québec », je considère la coalition Avenir Québec encore comme un parti montréalais, un parti où toutes les décisions se prennent à Montréal, puis on fait fi un peu des décisions qui peuvent se prendre à l'interne, comme dans la grande région de Québec, dans la capitale nationale. Comment un Charles Millard pourrait arriver au Parti libéral du Québec puis tenter de conquérir rapidement les régions? Avec Pablo Rodriguez, bon, on n'a pas eu la chance de le voir aller dans les régions, quoique s'est déplacé quelques fois. C'est un gars qu'on voyait un peu plus au fédéral, qu'on entendait parler une fois de temps en temps. Mais moi, ma grande question, c'est, Parti libéral existe, là. Comment il fait pour exister à l'extérieur de l'île de Montréal et faire en sorte qu'il y ait des Québécois de souche qui votent pour le Parti libéral plutôt que des immigrants ou des fils d'immigrants qui se disent « Ah, les libéraux nous ont aidés par le passé, puis on va voter pour eux jusqu'à la fin de l'humanité. »
Donc ça, c'est le défi qui m'intéresse le plus dans la job là, que j'aimerais bien avoir. C'est parce que vous avez raison, là, si on regarde les faits, tous nos députés, sauf un, sont dans la région de Montréal, sauf André Fortin qui est en Outaouais. Alors, moi, mon défi, c'est d'aller à la rencontre des Québécois partout dans les régions. Ce qui est intéressant, c'est que c'est mon expérience de vie personnelle. Donc, vous savez, moi, je viens de la région de Québec, je viens de Lévis, j'habite en Estrie maintenant, je viens de me présenter dans la circonscription d'Orford. Et littéralement, dans les 25 dernières années, disons 22, 23, 24 années, j'ai fait le tour du Québec, je ne sais pas combien de fois, c'était ça ma job, que ce soit chez Uniprix, que ce soit la Fédération des chambres de commerce. Alors, nommez-moi un patelin au Québec, il y a des bonnes chances que je sois déjà allé. Alors, tu sais, je ne suis pas un étranger dans les régions du Québec, d'aucune façon. Alors, il va falloir être présent sur le terrain. J'ai déjà des bons candidats en tête qui vont surprendre dans certaines régions, mais il faut rebâtir ce qui était le Parti libéral dans des précédents gouvernements où on gagnait des comtés comme Louis-Hébert, comme Lévis, j'ai gagné Lévis, comme la Côte-du-Sud, comme Bellechasse. Alors, c'est des comtés, moi, sur lesquels je vais avoir beaucoup d'ambition parce que c'est comme ça qu'on va regagner. Moi, je pense que l'Outaouais, l'Estrie, moi, ce que j'appelle la 55 aussi, hein, la Mauricie, le centre du Québec, c'est des comtés qui ont déjà une tradition libérale qu'il faut aller reconquérir. Mais je suis conscient qu'ils ont beaucoup de travail à faire, mais avec la plateforme qu'on va développer, qui va parler des vrais enjeux des gens, hein, les vrais enjeux, ce n'est pas la séparation du Québec puis l'immigration. Les vrais enjeux, c'est l'accès à un médecin, prendre soin de nos enseignants, prendre soin de nos agriculteurs. C'est ça, les vrais enjeux, nos aînés. Alors moi, je vais beaucoup, beaucoup aller là-dessus et on me jugera au résultat, mais j'ai un plan de marche là-dessus.
La classe moyenne existe. Je fais partie de la classe moyenne. Je regarde les gens les plus riches. Bon, ça semble bien aller. Les gens les plus pauvres, ils ont énormément de difficultés. Les vieux, les jeunes, on les intéresse comment au Parti libéral du Québec? Moi, le Parti libéral du Québec, j'ai de bons souvenirs parce que je suis un gars de droite économique. Je sais que ça vous surprend, Monsieur Milliard. Là. Je viens de Québec, je travaille à la radio. Je suis un gars de droite économique. Puis je veux que chaque denier que je vous donne, chaque dollar que je vous donne, soit utilisé à 100%. Au bon endroit. On fait comment pour intéresser les jeunes, la classe moyenne, les gens de droite économique au Parti libéral du Québec?
Bien, on va recommencer à parler justement d'économie puis de création de richesses, de PME. Hein? Comment qu'on fait comme nation, là, comment qu'on génère des revenus? On ne peut pas avoir une nation où tout le monde travaille pour le gouvernement. Évidemment, c'est impensable. On a besoin de gens qui créent des entreprises, qui payent des impôts, qui embauchent du monde, qui financent les équipes de hockey locales, qui financent le centre communautaire, qui font vivre les régions. Alors, quand les gens me disent, ah oh oui, on sait bien, M. Milliard, c'est un gars du milieu des affaires, ben tant mieux, parce qu'on a besoin de générer de la richesse au Québec. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de sensibilité pour le service public, puis pour la culture, puis la santé, au contraire. Alors, ça, il faut valoriser ça davantage. Puis vous avez raison, ça nous prend des livres plus balancés au Québec. Alors, souvent la droite économique, le problème, c'est qu'il y a une confusion des définitions. Quand on parle de la droite, là, on pense des fois à M. Trump et tout ça. Mais tu sais, la droite économique, ça veut dire qu'on veut que l'argent, qu'on veut verser le moins d'argent possible au gouvernement pour qu'il en fasse le plus possible. Alors, c'est évident. La classe moyenne a pas beaucoup de revenus disponibles pour faire des loisirs parce que justement, le taux d'imposition est très élevé. Alors, c'est pas vrai qu'on va augmenter les impôts au Québec, Dieu merci. Donc, il va falloir qu'on génère plus de richesses si on veut payer pour tous nos services publics. Alors, pour moi, c'est évident que le Parti libéral du Québec doit tourner un peu plus vers la droite au niveau économique. C'est comme ça qu'on va y arriver. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un cœur et qu'on va avoir un filet social qui protège justement ceux qui n'ont pas la chance que vous et moi, on a, c'est-à-dire d'avoir accès à quand même à une vie décente, puis avoir le moyen de se payer tout ce dont on a besoin.
Parce que quand les libéraux sont partis, quand les libéraux ont perdu le pouvoir, ils ont laissé beaucoup d'argent sur la table. On avait quand même un bon montant, je ne me trompe pas, c'est autour de 8-9 milliards de
7
mémoire.
7 milliards.
7 milliards. Et là, on se retrouve avec des déficits à n'en plus finir avec la coalition Avenir Québec. Faut redresser la barque parce que sinon, on est en train de couler. J'écoutais François Legault hier parler de son bilan. Puis tu sais, l'idée, c'est pas de faire le procès de François Legault, là. On pourra peut-être le faire dans les prochaines semaines. Mais il mentionne que le Québécois moyen et plus riche depuis l'arrivée de la coalition Avenir Québec. Quand on regarde ça en chiffres, il y a effectivement raison. Depuis 2018, il nous reste un peu plus d'argent dans nos poches. Sauf que concrètement, quand on est sur le plancher des vaches avec toute l'inflation, on voit pas cet argent-là. T'sais, on se considère encore plus pauvre qu'on l'était en 2018. C'est assez particulier comme situation. T'sais. Les gens ont comme une perte de confiance envers le politicien qui nous dit non, non, vous êtes plus riche, alors que avec l'inflation, il nous en reste moins dans les poches, puis le dollar loisir disparaît, comme vous avez mentionné. Faut la ramener, cette confiance-là, du politicien qui va dire, savez-vous quoi, chaque dollar que vous m'envoyez, je vais l'utiliser à 100% à bon escient. Et savez-vous quoi, si je peux couper aux endroits où je peux couper, je vais vous en demander moins. Il me semble que c'est rare, ces politiciens-là, depuis quelques décennies.
C'est rare et pourtant c'est ça que les Québécois veulent. Donc moi je veux répondre à cet appel-là. Puis vous avez raison que les chiffres de productivité puis l'écart de productivité ont changé favorablement, pas assez rapidement selon moi et M. Legault, je pense, le reconnaît aussi. Mais vous parlez de ça aux gens, dans les allées au Super C et au Maxi, ils vont vous dire de quoi tu parles.
Exact.
OK? Parce que la facture d'épicerie n'arrête pas d'augmenter. Puis c'est rendu qu'aller au restaurant, je suis allé au restaurant, moi, à deux en fin de semaine. C'est fou comment tu peux te rendre à 150 $ facilement. Alors, puis qui peut se payer une fois par semaine un restaurant à 150 $ dans une classe moyenne, là, exemple? Donc, ça c'est la réalité. Le défi est vraiment important. Donc, soit les gens ont plus de richesses parce qu'ils ont des meilleurs salaires ou ils payent moins d'impôts, ou soit il y a des économies de marché qui se font que les prix peuvent baisser. Alors, tu sais, c'est compliqué, puis c'est pas compliqué en même temps. C'est soit que les gens ont plus d'argent ou que ça leur coûte moins cher. Alors, écoutez, moi, je pense que c'est le principal défi de tous les politiciens dans les pays développés, je dirais. Mais vous avez raison que sur le plancher des vaches, on la voit pas le changement du moral.
Est-ce que le Canada, est-ce que le Québec est un enfer fiscal?
Un enfer
Parce
fiscal?
qu'on parle en mal des paradis fiscaux partout sur la planète, des gens qui réussissent à se sauver et à payer
Ouais.
moins d'impôts en ayant des comptes en banque ailleurs, des entreprises inscrites ailleurs. Et je me dis, si le paradis fiscal existe, c'est parce qu'il y a probablement des enfers fiscaux. Puis les hommes et les femmes d'affaires du Québec à qui j'ai la chance de jaser me mentionnent souvent que c'est compliqué de faire des affaires au Québec. Ça coûte cher avec les gouvernements provinciaux et fédéraux. Des fois, je me dis, ben, c'est pas ici l'enfer fiscal, puis il n'y a pas un peu de job à faire pour des gars de droite économique de faire le ménage dans la paperasse, puis essayer de rendre ça le plus simple possible, puis d'en demander peut-être un peu moins aux gens qui viennent s'établir ici, puis partir des grosses entreprises pour que finalement il y ait plus d'emplois de créer.
On a déjà été beaucoup plus attirant dans beaucoup de secteurs. Je pense entre autres au secteur, évidemment, des ressources naturelles, mais même aussi des services. Il y a une perception à l'international. Là, je ne vous parle pas du Canada anglais, là, je vous parle à l'international. Il y a une perception que c'est complexe. Mais il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on soit très, très ferme. Donc, c'est sûr que pour nous, la protection du français, entre autres, t'sais, la protection de notre culture, notre identité, c'est non négociable. Mais vous ne pouvez pas croire qu'il n'y a pas des améliorations à faire pour rendre le terrain plus actif. Je pense entre autres au secteur minier, là. Avant, il y a une quinzaine d'années, on était reconnu comme un endroit extrêmement, je vais pas dire ouvert parce que c'est péjoratif, mais en tout cas qui est propice au développement. Et on a dégringolé d'une façon incroyable alors que les besoins minéraux stratégiques pour faire entre autres des véhicules électriques, hein, qui peuvent être importants dans la lutte au changement climatique, bien, on en a besoin, puis que l'autre plus grande source de minéraux stratégiques et critiques, vous savez, c'est où? C'est en Chine. Alors, qui est un système politique, hein, qui est pas mal différent du nôtre. Alors, il y a des opportunités comme ça, là, qui sont loupées complètement. Alors, oui, plus de déréglementation, mais pas sur n'importe quoi. T'sais, on n'a pas besoin de créer un ministère de la déréglementation. T'sais, on s'entend que c'est comme aller à l'encontre du projet, là, de créer un ministère de la déréglementation, selon moi.
Ouais. On parle du climat, on parle d'argent. J'ai le goût de me coltoyer avec vous sur la bourse du carbone qu'on a au Québec. On est les seuls au Canada qui avons cette bébite-là. Avec un Charles Millard qui devient un jour peut-être, qui sait, chef du Parti libéral du Québec. Aux prochaines élections, surprise, Charles Millard devient premier ministre du Québec. Il fait quoi avec la bourse du carbone? Est-ce qu'il la garde ou il la floche?
Bon, ça a repris 30 minutes avant qu'on ne soit pas d'accord, probablement. Non, mais tu sais, moi, j'ai dit que je faisais une deuxième course puis que j'avais changé dans la deuxième course, c'est-à-dire que j'essaie pas de faire plaisir à tout le monde. Alors là, je peux pas toujours être d'accord avec tout ce que le monde propose. Je comprends ce dossier-là crée beaucoup d'insatisfaction, mais c'est pas ma priorité pour l'instant d'éliminer la bourse du carbone. Ma priorité, ça serait plus de faire que l'argent qui va là-dedans pour le fonds vert puisse encore plus servir aux entreprises, entre autres, pour les aider dans la lutte au changement climatique. C'est pas dit qu'avec l'évolution de ce qui se passe, qu'on peut pas revoir cette situation-là, mais je ne mettrai pas dans ma plateforme en ce moment que je vais abolir la bourse du carbone. Ça peut pas être plus clair que ça.
Actuellement, ce qu'on me mentionne du côté des entreprises de transport, j'ai la chance de jaser régulièrement avec la gang de Truck Stop Québec, et des milliers d'entreprises du transport ont un mot d'ordre qu'ils donnent à leurs chauffeurs, c'est quand vous avez à mettre de l'essence dans le camion, mettez ça n'importe où sauf au Québec. Donc, quand vous arrivez à Ottawa, avant de passer à Gatineau, faites le plein. C'est la même chose pour ce qui est des lignes américaines. On perd beaucoup d'argent parce qu'on a cette bourse du carbone-là. Je ne sais pas si on serait en mesure de l'évaluer. T'sais, combien d'entreprises, t'sais, avec toutes les litres qu'on met dans les camions, on perd combien d'argent parce qu'on a cette maudite bourse du carbone-là? En bout de ligne, c'est-tu payant la bourse du carbone ou on se tire dans le pied?
Alors, là, vous amenez un bon point. C'est-à-dire que c'est comme l'immigration, cette histoire-là. On s'en parle, on lance une coupe de chiffres, puis finalement, on ne sait pas trop de quoi qu'on parle. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des études d'impact sur quelle est la perte de cette réalité-là? Moi, je n'ai jamais vu ça. En tout cas, si quelqu'un l'a publié puis nous écoute, envoyez-moi ça. Mais moi, je n'ai jamais vu ça. Quel est le coût d'opportunité d'avoir cette bourse-là? Je sais très bien que pour les agriculteurs, c'est difficile, pour les truckers, les camionneurs. Mais il va falloir aussi qu'on se parle comme société sur quelle contribution qu'on fait pour la lutte au changement climatique. T'sais, on est passé d'un bout extrême à l'autre dans le discours politique. Et M. Carney a fait bouger l'aiguille pas mal au niveau fédéral. Alors, moi, je suis ouvert à une discussion là-dessus. Mais ce que je vous dis, c'est que là, pour le moment, moi, je pense que les sommes qu'on génère de cette bourse-là, si on les utilise plus intelligemment, bien, c'est une autre façon d'aider la population à améliorer la réalité climatique actuelle.
Mais ils font quoi ailleurs? T'sais, ils n'ont pas de bourse du carbone. Je ne connais pas de Québécois ou de Canadiens que j'ai eu la chance de rencontrer, ou même d'Américains qui se font un plaisir de polluer la planète. T'sais, j'ai eu le plaisir, il y a de ça deux étés, de faire de la plongée sous-marine. On avait été vidé dans le secteur du lac Saint-Joseph. On avait, en plongée sous-marine, fait le ménage du fond du lac Saint-Joseph. Et quelle ne fut pas ma surprise de retrouver uniquement des bouteilles de bière des années 60, des années 70, puis 80. Les gens font de plus en plus attention. Dans le temps, ben, ils prenaient la bouteille et se disaient « elle va disparaître », puis ils pitchaient dans le lac puis elle s'en allait jusqu'au fond. Les gens font de plus en plus attention. Puis j'imagine que les gens des autres provinces font attention aussi. La province de Québec, c'est la province la plus verte au Canada, là, si je ne me trompe pas. J'avais vu des chiffres il y a de ça 3 semaines environ. On fait vraiment attention à notre environnement, mais j'ose espérer que les autres provinces le font aussi. Mais on est pogné avec cette maudite bourse du carbone-là qui nous coûte une fortune à chaque fois qu'on va faire le plein. Puis on fait plus de run de char comme nos grands-parents en faisaient, M. Milliard, là. Partir le samedi puis le dimanche juste pour se promener. On dépense plus de gaz pour rien. Hein.
On faisait ça quand on était jeune.
Hein, ben oui, mais nos méchants parents puis nos méchants
arrières. Mais on peut peut-être s'entendre sur la nécessité de mesurer c'est quoi l'impact de ça, puis peut-être de prendre des décisions politiques en lien avec ça, parce que le gouvernement de la CAQ a changé quand même beaucoup, a joué un peu au yo-yo sur ce dossier-là dans les 8 dernières années. Rappelez-vous ce qu'ils disaient en 2018, puis ce qu'ils disent aujourd'hui.
Ben, le livre!
C'est Bernard Drainville qui s'occupe de l'environnement, puis c'est le même qui disait « lâchez-moi avec les GES », tu sais, donc... Disons que ça va de tous les bords.
Le livre de François Legault en 2017-2018, moi, j'avais été charmé par son livre. Là. Il y avait de très bonnes idées, mais malheureusement, il a renié tout ce qu'il avait écrit dans ce livre-là. Il avait fait une campagne électorale un petit peu plus à droite pour finalement gouverner par la gauche une fois qu'il a pris le pouvoir.
Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
L'exploitation du pétrole ou du gaz au Québec, vous pensez quoi de ça?
Écoutez, moi, je crois au développement d'encore plus de projets canadiens. Alors, moi, je suis ouvert à cette discussion-là, tu sais, d'avoir des corridors commerciaux énergétiques au Québec. Mais il faut quand même rester, il faut rester sérieux dans l'évaluation environnementale. Moi, je ne vais pas rogner sur les évaluations environnementales. Le Bureau d'audience publique en environnement, ça a été créé pour une raison. Il y a peut-être eu parfois des dérives ou des délais qui rendent la chose plus bureaucratique, je vous dirais, mais on a besoin d'organismes comme ça. Mais moi, je me suis déjà prononcé quand j'étais à la Fédération des chambres de commerce. Moi, je pense que le projet de GNL Québec, il faut l'étudier dans le contexte géopolitique actuel, entre autres, qui a beaucoup changé depuis 8 ans.
Ouais.
Quand ça a été, je ne me rappelle pas quand est-ce qu'on l'a mis de côté, mais il faut évaluer ça de cette façon-là. Alors, il faut... Moi, je pense que le rôle du gouvernement du Québec, c'est d'être ouvert aux affaires. Il ne faut pas dire non trop rapidement. On a tellement une culture du non économique qui est importante, mais ce n'est pas parce qu'il y a un projet qui arrive qu'on dit non, qu'on est contre tous les projets. Il y a des projets que écoutez, s'ils nuisent à nos relations avec les communautés autochtones, s'ils nuisent vraiment à notre bilan climatique, si finalement ils ne créent pas tant d'emplois que ça dans la région, on peut être capable de dire non puis pas être complexé. Mais il faut nécessairement être plus ouvert aux évaluations puis arrêter de faire juste des discours politiques de « Ah oh non, on ne fera pas ça » sans l'avoir vraiment étudié ou l'inverse.
C'est qu'il y a des choses qui font peur, là, t'sais. C'est des campagnes de peur surtout qui se font. Puis, t'sais, je me souviens de Gentilly, le Parti québécois qui avait fermé Gentilly, cette centrale-là qu'on aurait peut-être besoin aujourd'hui. Mais somme toute, c'est du vieux nucléaire, puis c'est le fun qu'on soit passé à d'autres choses. Mais je parlais avec un ingénieur nucléaire, je pense que c'était au début du mois de décembre, puis il me mentionnait qu'au Canada, on en a à peu presque une vingtaine des réacteurs nucléaires, mais qu'au Québec, en raison de la peur que les Québécois ont envers le nucléaire, il serait jamais possible d'utiliser ça, ce qui fait en sorte qu'il nous reste les barrages qui créent des fois des frictions avec les communautés autochtones. Il nous reste l'éolien. Quand il vente, ça va bien. Puis, il nous reste aussi l'énergie solaire. Mais le nucléaire aurait été franchement intéressant comme solution autre que celle des trois autres que je vous ai mentionnées. Mais comme les gens n'ont pas de connaissances par rapport à ça, ils ont tout le temps entendu des campagnes de peur, bien, ils n'embarqueront jamais là-dedans. Et quand François Legault avait fermé la porte à toute exploitation gazière au Québec, j'avais trouvé ça très particulier parce qu'on dort au-dessus de milliards de dollars. Monsieur
Je pense
Milliard,
que
pour ne pas faire de mots,
comme
pas.
peuple, on a besoin de plus de. Et je dis pas que je suis plus un expert que les autres, mais on a besoin de plus de connaissances sur c'est quoi les différentes sources d'énergie possibles au Québec. Effectivement, c'est sûr que le potentiel hydroélectrique du Québec, je pense qu'il n'a pas atteint sa pleine capacité. Fait qu'il y a des éléments du plan d'action de Hydro-Québec que moi je trouve sont importants. Si on est capable de le faire en collaboration avec, entre autres, les communautés autochtones, hein. Vous savez que. L'abbé James de 1970, legs important de M. Bourassa, on pourrait pas refaire ça de la même façon en 2025, puis c'est peut-être mieux comme ça aussi, parce que les choses ont changé. Mais vous parlez du nucléaire, de l'hydrogène, du solaire, les gens en savent très peu sur comment ça fonctionne. Alors, est-ce que c'est le rôle des politiciens? Pas sûr, mais c'est le rôle des experts. Peut-être que les politiciens peuvent aider les experts à mieux faire connaître qu'est-ce que ça veut dire. Mais entre autres, sur le nucléaire, on a une expertise au Canada qui est exceptionnelle. Les gens ne
Exact.
savent pas ça, que il y a, la concentration d'experts en nucléaire au Québec, au Canada en tout cas, est impressionnante. Puis tu sais, en France, c'est le nucléaire, hein, qui est
Oui.
en premier. T'sais. Puis la France, on aime bien ça se comparer à eux. Ça pour dire qu'il ne faut pas fermer la porte à toutes les sources, juste à cause d'un discours politique de raccourci. Mais c'est sûr qu'au Québec, on a la chance d'avoir l'hydroélectricité qui est quand même une énergie propre importante, mais qui demande tellement d'investissement dans les infrastructures au départ. Après, c'est super propre, mais les infrastructures que ça demande, parlez-en à ceux qui ont construit la route de l'abbé James, puis qui sont allés tout déboiser ça dans les années 70. D'ailleurs, il y a un super livre là-dessus de Serge Bouchard là, qui s'appelle Du diesel dans les veines. Ça
Ouais.
raconte la vie des truckeurs qui ont construit l'abbé James. C'est super intéressant.
Exact.
Donc, on a la chance d'avoir du choix au Québec, en fait. Ça, faut le reconnaître.
Charles Milliard, il nous reste encore quelques secondes à l'émission. Est-ce que vous me permettez de faire une courte pause?
Oui, bien sûr.
En vous rappelant que j'ai le plaisir de passer la soirée de Marceau Soir avec Charles Milliard, le candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec. Il va être avec nous encore quelques minutes après la pause. Merci de rester là.
Marceau, le soir. Le segment que personne veut manquer le matin. Le Pit Stop de 7h45 avec Gravel et Marceau.
Tu sais, puis quand tu fais du feu dans ta cheminée, là, il y a comme une boucane qui sort. C'est nouveau, ça vient d'arriver, 2026.
Non, mais c'est un fiasco de communication depuis le début. Hein. Histoire des feux de foyer. Ben non seulement le problème de communication n'est pas réglé depuis ce temps-là, mais on n'a pas encore réussi à expliquer correctement aux gens pourquoi c'est dangereux. Puis là, on se retrouve en plein temps des fêtes où les gens décrochent un peu des moyens d'information. Il y a des gens qui le savaient pas. T'as un 10% qui ont allumé le foyer, qui ont mis une photo sur Facebook pour faire « Yes! F*** you, marchand! J'allume mon foyer pis je fais un steak! » Bon, le Pit Stop de Boulevard 102.1, lundi au jeudi, 7h45.
Le 12 février, le Carnaval de Québec en collaboration avec Loto-Québec vous invite à la Citadelle de Québec parce que Boulevard 102.1 affronte Weekend 91.9 dans un combat de laser tag électrisant. Et si vous voulez faire partie de l'action, inscrivez-vous dès maintenant sur le blvd.fm pour courir la chance de joindre notre équipe. Restez à l'écoute, les gagnants seront annoncés dans Gravel dans le retour le 16 janvier. Adrénaline, esprit d'équipe et plaisir garanti. Boulevard contre week-end. Qui remportera la victoire?
Au Centre Auto Québec, les freins et les batteries sont garantis à vie. Au Centre Auto Québec, on vérifie votre conduite gratuitement ce mois-ci. Au Centre Auto Québec, c'est le meilleur tarif horaire au Québec avec le meilleur service. Au Centre Auto Québec, votre voiture... notre passion.
Vous imaginez votre vie dans Montcalm? Les logements locatifs d'appartements urbains offrent un quotidien vibrant, proche des restos, des parcs et de la culture. Espace raffiné, commodité haut de gamme et ambiance de quartier irrésistible. Appartements urbains, la vie locative à l'échelle humaine.
Jusqu'au 31 janvier, Dixilly Charlebourg vous offre le dîner 2 morceaux de poulet pour seulement 10 $ plus taxes. En salle à manger ou pour emporter, Dixilly Charlebourg. 1279 boulevard Louis XIV, restodixilly.ca.
Le meilleur pour les filles, c'est Dixilly.
Pensez à Léopold pour vos projets de construction ou de rénovation. Salle de bain, plomberie, couvre-plancher et peinture, ils ont tout pour transformer votre espace. Découvrez leur grande marque comme Zita, spécialiste en produits de salle de bain. Léopold, avenue Taniata, Lévis.
Quand le suspense vous tient en haleine, quand chaque épisode compte, sur Max, c'est un max de série, un max d'intrigue, un max d'action. Cet hiver, place aux enquêtes, aux émotions fortes et aux films incontournables. Max, la destination des grands rendez-vous télé. Max, vivez l'action. Abonnez-vous.
Saviez-vous que la Cité médicale offre de la médecine privée? Prenez rendez-vous dès maintenant pour consulter un médecin rapidement, à Sainte-Foy ou à Charlebourg. Prise en charge complète ou consultation ponctuelle, selon vos besoins. Visitez médecineprivée.lacitémédicale.com. L'hôtel Terrasse Dufrain, c'est convivial, chaleureux, accueillant. Sans parler de la Terrasse Dufrain, le Cachet, le Vieux-Québec, c'est tellement beau. Stationnement disponible sur place. Suivez-les sur Facebook ou Instagram. Pour réserver au meilleur prix, réservez dès maintenant sur terrassedufrein.com.
Dans les Etchemins, on a tout ce qu'il vous faut pour profiter de l'hiver. Des sentiers de rando et de motoneige, des endroits pour glisser, des microbrasseries pour vous réchauffer et une tonne d'activités gratuites pour décrocher à petit prix. tourismeetchemins.qc.ca.
Ton rêve de skier tout l'hiver s'est arrêté sec sur la montagne en fin de semaine. Chez PCN Physio, il t'aide à retrouver ce que tu pensais avoir perdu. PCNphysio.com.
Pour se rencontrer après les fêtes et partager des moments mémorables avec vos proches, c'est chez Allô mon coco des Galeries de la Capitale. Pour bruncher dans une ambiance à la fois festive et réconfortante, réservez dès maintenant. Allô mon coco, un déjeuner plein l'assiette.
OK Léo, refais-moi la gamme au complet.
Oh non, ça me tente pas.
Hey, ah ouais, c'est ton examen demain. Tu l'as presque, mon grand. C'est juste la fin que tu manques. Refais-le comme ça. Do, ré, mi, fa, sol, la, mercado!
À travers votre quotidien routinier, vous méritez de vous gâter. Rendez-vous au mercado.fm pour trouver une foule d'offres à moitié prix. Spa, resto, activités, thermopompes, on vous garantit d'y trouver votre compte.
Le Centre dentaire Charest est en pleine croissance. Vous êtes dentiste, hygiéniste dentaire ou assistant? Joignez-vous à une équipe dynamique et passionnée. Centre dentaire Charest, la clinique qui vous fera sourire. Visitez la section Nous recrutons sur centredentairecharest.com pour postuler.
Toiture Benoît Tremblay souhaite une bonne année 2026 à tous ses fidèles clients. On repart la machine pour une autre saison. Nous sommes en période de recrutement. Si le métier de couvreur est déjà le tien ou si tu veux en faire ta carrière, viens nous voir chez Toiture Benoît Tremblay.
Chez Spa de la Capitale, en plus de réparer et d'entretenir votre spa, on vous propose toute une gamme de spas neufs et reconditionnés pour que vous puissiez en profiter toute l'année. Passez nous voir en semaine au 1275 boulevard Charest-Ouest, spadelacapitale.com.
En 2026, j'ai décidé de faire avancer ma carrière. J'ai de l'expérience, mais il me manque un diplôme collégial.
Vous vous reconnaissez? Nous aussi, on vous reconnaît. Vous avez de l'expérience en informatique, en pharmacie, en administration, en supervision ou en gestion de la production? Obtenez votre diplôme collégial autrement, à distance, à votre rythme et tout en travaillant à temps plein. Atteignez vos objectifs professionnels avec la reconnaissance des acquis et des compétences du Cégep Limoilou. Voyez grand, cégeplimoilou.ca.
Chez Laval Volkswagen, obtenez le Taos 2026 à un taux de location avantageux à partir de 2,99%. Et si vous êtes déjà propriétaire d'un Volkswagen, profitez d'une réduction de taux et recevez 2 ans d'entretien gratuit. On vous attend chez Laval Volkswagen.
Vivez dans un immeuble qui se distingue à la tête des ponts. La Forêt Québec propose des unités avec une vue exceptionnelle sur le fleuve, du studio au 5,5, ainsi qu'une formule tout inclus. Espace commun complet, commerce au rez-de-chaussée, pensée et plus. La Forêt Québec, audacieusement bien pensée.
Chez Climatisation Paquette, nous offrons un service complet, diversifié et sans sous-traitant. De la vente à l'installation, la réparation ainsi qu'au nettoyage, Climatisation Paquette est là. Et n'oubliez pas de faire le nettoyage de vos conduits de ventilation pour respirer un air sain.
Climatisation Paquette!
C'est le retour des soupers à petit prix chez Normandin. Tous les jours dès 16h, pour seulement 11,95 $, savourez en salle à manger l'un des 6 repas incontournables de Normandin. Le combo pizza garnie avec frites, la salade César au poulet croustillant, le combo lasagne et salade, le wrap au poulet, le nouveau Burger Smash Barbecue et la poutine à la fondue chinoise. 6 choix au prix vraiment spécial de 11,95 $. Dès 16h, chez Normandin, on s'occupe du souper. Jusqu'au 15 février, détail en restaurant. Normandin, ça fait plaisir.
Si vous prévoyez la construction d'une maison ou l'achat d'un condo neuf, l'électricité, la plomberie, la fondation, la charpente, le toit, le revêtement, les portes, les fenêtres, les planchers, les murs, la finition, tout ça, c'est important. Mais pas aussi important que de choisir un entrepreneur titulaire d'une licence de la RBQ et accrédité par le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Ainsi, vous serez bien protégé. Et ça, c'est vraiment important.
Apprenez-en plus sur les protections offertes par le plan de garantie au rbq.gouv.qc.ca. Un message de la Régie du bâtiment du Québec.
T'es autant intéressé par ce qui se passe à Québec que par ce qu'il y a de nouveau dans le monde du rock?
Boulevard 102.1.
Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir. Marceau le soir. Le soir.
Dans Marceau Soir, on passe la soirée avec Charles Milliard, qui est le principal candidat pour la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Il nous reste quelques dossiers à aborder avec vous, M. Milliard. François Legault, qui a démissionné hier, ça a été quoi vos premières pensées?
Bien, premièrement, moi, je voulais saluer son engagement. Là. Au-delà de, tu sais, les gens savent bien qu'on est des adversaires politiques, mais quand même, M. Legault a été 25 ans en politique active. C'est pas évident. Il a aussi été, c'est notre premier ministre hein, depuis 2018. Il a été premier ministre de la pandémie. Écoutez, il a fait des choses quand même importantes pour le Québec. Alors, je sais pas s'il se sent délivré ou en tout cas, il avait l'air très serein hier. Je trouve qu'il a livré un discours avec beaucoup d'aplomb. Alors, hier, tu sais, c'était vraiment plus une journée pour reconnaître ce travail-là. Mais, comment je vous dirais bien ça, M. Legault s'en va, mais le bilan de la CAQ reste. Ça, il n'y a pas de changement, là.
Et le bilan, selon vous, de la coalition Avenir Québec, est-ce que c'est catastrophique? Est-ce que c'est mitigé? Est-ce que c'est positif?
Ben, écoutez, je ne veux pas être dans les termes, là. Je pourrais bien vous dire que c'est catastrophique, mais c'est certainement pas à la hauteur de ce que les Québécois attendaient, ne serait-ce qu'économiquement. Il y a eu quand même beaucoup de couacs économiques. Il y a un budget qui ne ment pas, qui est là, ça, c'est factuel. Je pense malheureusement que la CAQ depuis 2018 nous divise comme Québécois. Hein? Est-ce qu'on pourrait s'oublier reconnaître qu'on n'a pas besoin d'être tout pareil au Québec pour être Québécois? Alors, ça me désole. T'sais, l'agenda identitaire de la CAQ me désole depuis le jour 1. Alors, ça ne changera pas aujourd'hui. Puis économiquement, ben, ils n'ont pas été en mesure de réaliser leurs ambitions. Ceci dit, est-ce que ce sont des gens sympathiques, dévoués au Québec? Assurément. Faut pas non plus les diaboliser. Mais de toute évidence, les Québécois veulent du changement. Là. Sinon, ils ne seraient pas où ils sont dans les sondages. Et je doute qu'un prochain leader va faire bouger l'aiguille tant que ça.
On va souhaiter qu'il y ait le plus d'opposition possible pour que tout le monde puisse faire des échanges d'idées puis qu'on arrive avec le meilleur parti possible pour la belle province de Québec. Il y a eu des dossiers, moi, avec la coalition Avenir Québec qui m'ont franchement agacé. Pour ce qui est de la pandémie, personne n'aurait pu prévoir qu'on allait avoir une pandémie, mais la gestion, j'aurais aimé avoir, puis là, vous êtes en affaires, fait que vous allez comprendre ce que je dis, j'aurais aimé avoir un genre de commission d'enquête sur ce qui s'était passé, les choses positives et négatives qu'on a fait pour laisser ça aux générations futur. Si jamais dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on a encore ce genre de petites bêtes qui nous attaquent, ben on saura les bons coups et les mauvais coups qu'on a fait au début des années, en 2020, mettons, 2021. Ouais. Mais on n'aura pas de commission d'enquête. Comme s'il y avait peur du bilan de cette commission d'enquête-là. Le fiasco, ça clique et tout ça, les milliards qu'on a dépensés avec Northvolt, c'est ces bilans-là qui m'agressent. C'est surtout l'attitude qu'il y avait avant son départ de perdre des milliards sans nécessairement avoir un peu d'empathie envers les gens qui envoient énormément d'impôts. C'est... Peut-être qu'avec le temps, je vais trouver un peu plus de positif, mais actuellement, je l'ai encore sur le cœur, le bilan de la coalition Avenir Québec. Là.
En tout cas, sur sa clique, je crois comprendre que ces jours-ci, on va avoir plus de nouvelles sur les blâmes qui seront portées, ouais. Les conclusions de ça.
Alors, Geneviève
ça,
Guilbeault, tout le monde s'entend pour dire que... ça a commencé à couler ce matin. Geneviève Guilbeault qui va être entachée. Le bureau de François Bonnardel va être entaché aussi. Pas François Bonnardel personnellement, mais dans le dossier de Mme Guilbeault. Je ne sais pas qui a fait couler l'information ce matin, mais j'imagine que c'est quelqu'un qui n'est pas très empathique envers Mme Guilbeault. Oui, elle sera blâmée par la commission Galant.
Alors ça, c'est certain, on s'entend que ça, c'est un désastre administratif.
Oh, oui.
Ça clique, là. Soyons honnêtes. Sur la pandémie, bien écoutez, là, je pense qu'il y a plusieurs choses peut-être à reprocher, mais à sa défense, je dois être honnête, là, ça n'a pas dû être évident d'être premier ministre dans une situation comme ça. Alors, je lui donne pas de médaille d'or, mais je lui donne pas non plus un sac à poubelle. Là. C'est quand même pas évident comme situation. Personne n'avait vécu ça.
Il y a des dossiers hallucinants qui prennent une ampleur provinciale alors que c'est vraiment régional. Je pense au tramway de Québec, je pense au troisième lien de Québec. Qu'est-ce qui fait que tout le monde, à grandeur de la province, se mêle de quelque chose qui est très régional, c'est-à-dire un troisième lien? Presque un deuxième lien, parce qu'à un moment donné, le pont de Québec va falloir passer à d'autres choses. Mais un troisième lien, c'est rendu provincial. Le tramway, c'est rendu provincial, alors que ça devrait être les gens de Québec qui décident de ce qu'ils ont besoin. Charles Milliard pense quoi de ça?
Ça, vous avez tellement raison. Là. C'est épouvantable comment un dossier régional peut prendre une ampleur aussi grande. Mais ça, c'est à cause de la CAQ hein, qui a fait... qui a hésité, reculé, avancé, tassé. Donc, ils sont un peu victimes de ça. Puis plusieurs disent que c'est quand il a commencé à changer de sujet là-dessus que ça a commencé à mal aller aussi. Alors, c'est quand même pas la première fois qu'un être humain veut faire un pont pour relier deux rives. Donc, écoutez, moi, je trouve ça quand même assez incroyable. Moi, j'ai été clair dans la première campagne que je suis favorable au troisième lien. Je sais très bien qu'il y a des gens de Montréal qui sont capables d'écouter la radio à Québec. Alors, encore une fois, ça, je ne me défile pas. Je reconnais que les finances publiques du Québec sont dans un état épouvantable et je n'ai pas accès à toutes les études là, du ministère des Transports sur les coûts réels. Ça, c'est tellement politisé. C'est comme un terrain miné. Là. Oui. Il va falloir passer calinette dans ce dossier-là pour régler ça. Mais moi, je suis un gars de Lévis. J'ai vu comment Lévis a explosé favorablement dans les 25 dernières années. Puis si on a encore plus d'ambition pour la capitale nationale puis pour l'Est du Québec, parce que moi, je pense que l'Est du Québec bénéficie d'un troisième lien, bien, moi, je suis favorable à ça.
Ouais.
Alors, ce que je vous dis, c'est que si je deviens chef du Parti libéral, vous n'allez pas me convaincre de cette pertinence-là. Après ça, il va falloir travailler ensemble sur comment on fait arriver ça, cette espèce de dossier impossible-là, financièrement, sur la localisation. Demandez-moi pas où je le vois, là. C'est pas à moi à décider ce matin ou ce soir où je vois... où je vois le troisième lien, mais moi, je suis favorable à cette idée-là parce que je pense que ça fait partie de l'ambition que j'ai pour Québec.
Et il y a le dossier du tramway qui a fait beaucoup jaser. Bon, là, on a entamé les premiers travaux. Il y a énormément d'argent qui a été dépensé. Il reste à savoir l'apport du fédéral, l'apport monétaire du fédéral dans le dossier parce qu'il y avait un montant qui avait été réservé, mais comme les coûts du tramway ont explosé, François Legault avait dit qu'il allait prendre ça sous sa gouverne, là, de ce qu'on comprend, puis ce sera pas aux citoyens de Québec de casquer le manque à gagner du fédéral dans le cas où le fédéral ne paie pas plus que ce qu'il devrait... mais je ne connais pas personne qui est contre le transport en commun. On est tous pour le transport en commun. La seule différence, ce qui m'agace avec le tramway, c'est comme le troisième lien, on est très à l'affût des chiffres. Puis le tramway, ben, même si actuellement, au pied carré, ça va être le tramway le plus cher du monde, ben, on va le faire pareil, peu importe ce que ça coûte. Comme si c'était devenu l'emblème de l'environnement au Québec. C'est assez particulier. Moi, je veux un tramway, je veux un système de transport en commun efficace, mais pas à n'importe quel prix. Puis je veux que ce soit la meilleure entreprise qui nous fasse le meilleur prix possible avec le meilleur produit possible. Mais bon, ça, c'est peut-être juste moi.
Oui, puis je pense que la part du fédéral est très importante là-dedans. Là, on est vraiment trois à danser dans ce dossier-là. Je sais que plusieurs personnes critiquent le coût, c'est ce qui est tout à fait légitime, critiquent le trajet. Il y a des gens qui voudraient plus venir d'axe nord-sud, d'axe ouest. Il y a des gens qui c'est des questions d'esthétique. Honnêtement, aussi, c'est un autre dossier où on dirait que toute la planète se mêle de ça. Mais en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que moi, je veux une capitale nationale qui a de l'air d'une capitale nationale où le monde peut circuler, où on peut agrandir aussi, avoir de l'ambition pour la région de Québec. Et ça passe par une circulation qui est plus facile. Puis, c'est pas juste pour les citoyens. Tu sais, comme le troisième lien, pour moi, c'est aussi pour le transport des marchandises. C'est pour si on veut développer la Côte-Nord, si on veut développer le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay, ça passe aussi par ça. Là, je comprends que il y a beaucoup de choses qui sont virtuelles, mais jusqu'à présent, quand on extrait des ressources naturelles, quand on veut approvisionner des commerces, ça se fait pas par télépathie. Alors, c'est pour ça que je trouve ça important.
Charles Milliard, merci de nous avoir accordé du temps ce soir, 60 minutes. Je sais que vous êtes très occupé, donc c'est assez prenant parce que vous, je pense que vous travaillez sur quelque chose de gros qui s'en vient en fin de semaine. C'est pas samedi là, que vous êtes attendu, là?
Oui, en fait, samedi, on fait notre premier.